Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, et c'est Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Monceaux, avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Et Michel Lafon. Cette semaine, eh bien, il y a 10 nouveautés sur les écrans Monceaux, on les a presque toutes vues. Le mélange des genres, Sinners, Toxique, La Réparation, Oksana et Mon Nous Vivant, tout ça on l'a vu. Rapide, Comment devenir riche grâce à sa grand-mère, on l'a vu aussi. Les seuls qu'on avait vus, c'est Lettres siciliennes et Harvest. Mais bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Hein.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, effectivement. Bon, alors, la programmation musicale, eh bien, on a été, comme je le dis souvent, picoré. Et donc, on va commencer par un titre que l'on entend dans le film. Aimons-nous vivants. C'est Gérard Darmon qui chante Mambo Italiano. C'est un titre qui est fort célèbre puisque c'est un titre qui avait été enregistré par Dean Martin à l'époque.
A boy went back to Napoli because he missed the scenery, the native dances and the charming song. But wait a minute, something's wrong, 'cause now it's...
Hey Mambo, Mambo Italiano. Hey Mambo, Mambo Italiano. Go, go, go. You mix up Siciliano. Oh, you calibrate it, do the mambo like a crazy weather. Hey, mambo, don't want a tarantella. Hey, mambo, no more a mozzarella. Hey, mambo, mambo Italiano. Try an enchilada with a fish of bacalao. Hey, Goomba, I love how you dance the rumba. But take some other spaisano, learn how to mambo. If you're gonna be a screen, you ain't gonna anywhere. Hey Mambo, Mambo Italiano. Hey Mambo, Mambo Italiano. Go, 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 shake like Italiano. Hello, kiss a dish, you get happy in the pizza when you Mambo Italiano. You wanna know us cooking till you hey mambo, mambo Italiano, hey mambo, mambo Italiano, oh oh oh, you mix up Siciliano, hey look, you said this year you get happy in the pizza when you mambo. But you want to know the cooking till you hey mambo, mambo Italiano, hey mambo, mambo Italiano, oh oh oh, you mix up Siciliano, bello che se dice you get happy in the pizza when you mambo Italiano.
Mambo Italiano, Gérard Darmon, c'est au tout début du film qu'il chante lui-même cette chanson. Le mélange des genres, c'est un film qui est proposé au Pathé Quinconce et au cinéaste. C'est un film de Michel Leclerc. Michel Leclerc, réalisateur scénariste né en 65, il a à son actif des courts et des moyens-métrages, et puis ensuite des longs-métrages dont certains ont marqué les gens. 2005, J'invente rien avec Cadmera d'Elsa Zilberstein. 2010, Le nom des gens avec Jacques Gamblin, Sarah Forestier. 2011, Télégaucho avec Félix Moati et Sarah Forestier. La vie très privée de Monsieur Sim avec Jean-Pierre Bacri et Mathieu Amalric. 2019, La lutte des classes avec Laïla Bekti et Edouard Baird. 2021, Pingouin et Goéland et leurs 500 petits, ça c'était un documentaire. 2022, Les goûts et les couleurs. avec Rebecca Marder et Félix Moati, 2023, pour un téléfilm, Le Premier Venu, et puis il a aussi à son actif pas mal d'épisodes de la fameuse série Fais pas ci, fais pas ça. Pierre, parle-nous de ce mélange des genres.
Durée 1h43, avec Léa Drucker, Benjamin Laverne et Mela Bédia. Le synopsis, Simone, une flic aux idées conservatrices, est infiltrée dans un collectif féministe qu'elle suspecte de complicité de meurtre. À leur contact, Simone s'ouvre progressivement à leurs idées, mais lorsqu'elle est soupçonnée par le groupe d'être une taupe, elle se sert du premier venu pour se couvrir. Paul, un homme doux, inoffensif, respectueux des femmes, qui vit dans l'ombre de sa moitié, faisant de lui, malgré elle, un coupable innocent. Simone, catastrophée de ce qu'elle a fait, tente de réparer sa faute. Et alors, comment Paul va réagir? La revue de presse est très partagée. Ouest France, avec Philippe Lemoine, un film drôle et intelligent. L'Humanité, avec Michael Mélinard, avec sa comédie sur les violences sexistes et sexuelles, mettant en parallèle un collectif féministe, une policière infiltrée et un homme déconstruit, injustement accusé de viol, Michel Leclerc signe un film qui tacle avec gourmandise le patriarcat. Le Figaro avec Olivier Delcroix. Avec finesse et sensibilité, le mélange des genres fait l'éloge de la douceur et se ménage même quelques surprenants moments oniriques, on ressort sous le charme. Première avec Thierry Chaise. Un film qui fait un bien fou. L'Obs avec Nicolas Chalère. Assumer l'outrance jusqu'au bout façon Calmos de Bertrand Blier lui aurait mieux réussi que son dénouement de boomer post-68ard. Ce n'est pas une raison pour bouder son plaisir. La joyeuse cocasserie du film et un Benjamin Laverne irrésistible, en faux coupable consentant, acteur raté et mari déconstruit. Le journal du dimanche. Si l'intrigue prend un peu de temps à se mettre en place, si les parenthèses oniriques avec Vincent Delerme sont dispensables, comme sa scène d'amour finale dans un lieu singulier, elle amuse beaucoup, tout en faisant, loin du virilisme ringard, l'éloge de la douceur. Et puis maintenant, ça ne s'arrange pas, au niveau des critiques. La tribune du dimanche par Aurélien Cabrol. L'éventuel potentiel comique des situations se dilue dans ce scénario improbable qui n'en finit pas d'accumuler des quiproquos aussi mécaniques qu'artificiels. Libération avec Clément Colliot. Suivant une flic infiltrée dans un collectif féministe, la comédie de Michel Leclerc finit par reconduire les stéréotypes qu'il prétend déconstruire. Et enfin, Télé 7 jours avec Julien Barcillon, de bonnes intentions revendiquées pour un piètre résultat.
Voilà, ça s'appelle Le Mélange des genres, c'est proposé par les cinéastes et le Pâté Quinconce. C'est sur des thèmes dans l'air du temps, hein, féminisme versus masculinité toxique dans l'ambiance post-MeToo, et donc un film qui parle des violences sexuelles, du sexisme ordinaire, avec souvent d'ailleurs des réflexions très justes, hein, au détour d'une réplique ou d'une situation. C'est un film, cependant, que j'ai trouvé inégal. Alors, ça touche juste parfois, à travers certaines situations, certaines répliques, mais ça s'enlise aussi par moments et il y a des maladresses d'écriture, surtout moi j'ai trouvé dans les 10 dernières minutes, comme l'a d'ailleurs souligné un des critiques. Alors on est ici clairement dans le registre de la comédie, hein, avec cette histoire de femme flic infiltrée dans un collectif féministe et qui pour éviter d'être découverte accuse de viol un brave type. Alors on est entre délire féministe, exemple... D'ailleurs, exemple très drôle, la satire du vocabulaire utilisé par le collectif. On a aussi l'homme déconstruit, et puis la déconstruction qui se retourne contre lui. C'est aussi l'évocation du métier d'acteur à travers ce personnage de Benjamin Laverne qui galère, genre intermittent du spectacle de troisième zone, sans jamais se plaindre. On a aussi des flics machos, un couple en crise. Il y a des moments très drôles, vraiment des moments très drôles, et chaque personnage emblématique fait avancer les idées soutenu par les auteurs. À ce titre, le casting est excellent, y compris les seconds rôles dont, comme l'a souligné certains critiques, Mela Bédia, un activiste zélé et gaffeuse, qui est vraiment très drôle. Par moments, quand même, le film pêche, il devient un petit peu fourre-tout, il tombe dans une caricature facile, c'est un petit peu dommage. Donc, malgré tout, je pense que le positif, pour moi, l'emporte dans mon jugement, dans cette comédie sociale, basée, c'est vrai, sur les quiproquos pour faire avancer l'histoire. Cette histoire, c'est sur les rapports hommes-femmes aujourd'hui. Donc je recommande quand même ce film, Le Mélange des genres. On passe à Sinners. Sinners, on change radicalement de genre. Cette fois-ci, on est au Méga Cégère, au Pâté Quinconce et peut-être même au Colisée. Dans ces cinémas, il y a, c'est sûr, de la VO au Pâté Quinconce une fois par jour, et il doit y en avoir aussi une au Colisée. C'est un film de Ryan Coogler, réalisateur, scénariste, producteur américain en 84. Il a commencé par un petit film qu'on qualifierait de film indépendant aux États-Unis, a réussi en France, Fruitvale Station, avec Michael Jordan, Michael B. Jordan, rien à voir avec le basketteur, bien entendu. Et puis ensuite, il passe à des gros blockbusters. 2015, Creed, l'héritage de Rocky Balboa, avec donc Michael B. Jordan et Sylvester Stallone. Et puis 2018, Black Panther avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, etc., etc. Et 2022, la suite de Black Panther, Wakanda Forever. Pierre, parle-nous de Sinners.
Durée 2h17.
Ah oui.
Avec avertissement, interdit aux moins de 12 ans. Avec Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld et Miles Keaton. Le synopsis, alors qu'ils cherchent à s'affranchir d'un lourd passé, deux frères jumeaux reviennent dans leur ville natale pour repartir à zéro. Mais ils comprennent qu'une puissance maléfique bien plus redoutable guette leur retour avec impatience. À force de danser avec le diable, un beau jour, il viendra te chercher chez toi. La revue de presse a encore été très partagée. Cinématiseur avec Emmanuel Spadasanta, un film avec du fond, de la forme et des vampires. Le Figaro avec Étienne Sorin. Ryan Coogler ose un croisement habile entre la couleur pourpre de Steven Spielberg et Une nuit en enfer de Robert Rodriguez. Le Journal du dimanche, en dépit de quelques longueurs, le résultat est plutôt jouissif. Télérama avec Cécile Murie. Une audacieuse ode à la culture afro-américaine. Et puis ça devient moins empathique maintenant avec Le Point. Tout cela pourrait prêter à sourire si Sinners n'était pas un remix honteux et médiocre d'Une nuit en enfer de Robert Rodriguez, sorti en 96, avec George Clooney et Quentin Tarantino, qui avaient également écrit le script. Première avec Edouard Orozco. Malgré l'aura de Michael B. Jordan et quelques belles idées de cinéma, le trip historique et fantastique du réalisateur de Black Panther souffre de son propos confus. Enfin, Les Inconcuptibles avec Théo Ribeton. Ryan Coogler revient avec une comédie musicale historique de vampires sur fond d'apartheid à 90 millions. Disons-le sans détour, c'est à peu près irrégardable.
Oui. Alors Sinners donc confirme, c'est au Colisée, au Pâté Quinconce et au Méga CGR, et au Colisée et au Pâté Quinconce, il y a bien de la VO de temps en temps. C'est un film étrange avec un mélange des genres pas totalement convaincant. Alors, on est en 1932, dans une petite ville du Mississippi. Les frères jumeaux Smoke et Stack débarquent après 7 ans d'absence. Ils ont fait leur arme de gangster à Chicago et là, ils reviennent au pays pour ouvrir un club de blues, un joint, comme on dit. Voilà, c'est un film qui, pendant 3 quarts d'heure, ressemble à une chronique sur le Sud profond, avec un certain nombre de personnages liés les uns aux autres par le passé, et notamment le jeune Preacher Boy, qui est un guitariste de blues surdoué. Et puis soudain, il y a une scène qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et qui laisse à penser qu'il va se passer quelque chose d'inattendu. Et ce quelque chose intervient au bout de 1h30, où le film prend la forme d'un film de vampire, on peut le dire, hein, parce que c'est revendiqué. Un film de vampire assez improbable, mais qui se veut métaphoriquement politique. L'état de vampire pouvant signifier une forme de libération pour tous ces personnages, la plupart afro-américains, toujours victimes plus ou moins de discrimination. Voilà, donc c'est le cadre du film. Le film devient alors carrément gore et spectaculaire dans sa violence. Là, c'est plus du tout pour Pierre, alors que le début, ça pouvait se faire. Là, c'est plus du tout possible pour lui. L'ensemble est assez déconcertant, c'est assez unique, hein. On a rarement vu une telle rupture de ton dans un film. Ça inclut même quelques numéros de quasi-comédie musicale. La musique a beaucoup d'importance dans le film, et pas seulement le blues d'ailleurs, hein. Alors le film s'étire en longueur, fait 2h17, avec quelques séquences opportunistes vers la fin, comme ce désengage de membres du Ku Klux Klan, qui lui aussi arrive un peu comme un cheveu sur la soupe à ce moment-là. Bon, il vous faudra aussi rester après le début du générique de fin pour une sorte de twist, là aussi inattendu, qui dure bien 5 minutes, et qui n'est pas si mal que ça d'ailleurs. Au total, donc, c'est un film qui sort vraiment des sentiers battus, et c'est ce qu'on appelle, je vais t'apprendre quelque chose Pierre certainement, le genre de l'elevated horror. Ouf. Alors c'est quoi l'elevated horror? C'est des films d'horreur à prétention politique.
Ah bon, ça n'a rien à voir avec la lévitation alors?
Non.
Parce que la lévitation...
Oui, non. Mmh. Voilà, donc ça fait partie de ce genre-là, comme par exemple le Get Out sorti il y a quelques années. Donc, voilà. Alors, on voit parfaitement les buts poursuivis par le réalisateur. Hein. Il y a une volonté de dénoncer à sa façon le sort réservé aux Noirs dans l'Amérique des années 30 et par-delà l'Amérique en général. On peut trouver la forme choisie peu conventionnelle, mais aussi ne pas y adhérer totalement. C'est un peu mon cas et le cas aussi de certaines critiques, vous l'avez entendu. Bref, c'est à voir éventuellement par curiosité, malgré sa longueur, 2h15, parce que c'est vrai qu'on s'ennuie pas. Il se passe quand même beaucoup de choses à l'écran qui tiennent quand même éveillés. Donc, un peu mitigé sur Sinners. Toxic. Alors, Toxic, on part au cinéaste. Toxic, c'est un film qui est proposé donc par les cinéastes avec une séance par jour. Alors là, exercice de style, c'est un film lituanien, donc je vais certainement écorcher pas mal de noms. Alors, la réalisatrice s'appelle Solé Bliouvaïté. Je pense que ça se prononce comme ça, je vois pas comment ça pourrait se prononcer autrement. J'ai dit réalisatrice, je suis même pas sûr que ce soit une femme, mais bon. Réalisatrice, scénariste, réalisatrice, scénariste lituanienne, donc c'est le premier long métrage. C'est un film qui est interdit moins de 12 ans avec avertissement. Alors, c'est pas, il y a une polémique avec Pierre parce que c'est pas marqué sur l'affiche, je reconfirme d'ailleurs, c'est pas marqué.
Oui, c'est marqué sur l'affiche. C'est pas sur le programme des cinéastes.
Ouais, mais Pierre dit qu'il était étonné que ça ne soit pas interdit.
Ah oui, oui, ben,
donc,
oui,
je vais lui montrer que c'est interdit. Ça dure 1h39. Et donc, voilà le synopsis. Rêvant d'échapper à la morosité de leur quartier, Marija et Christina, 13 ans, se rencontrent dans une école de mannequinat locale. Les promesses d'une vie meilleure, malgré la concurrence ardue, les poussent à brutaliser leur corps à tout prix. L'amitié des deux adolescentes leur permettra-t-elle de s'en sortir indemne ? Vincent Stria dans L'Humanité déclare que c'est un premier film tendu et vivace, superbement mis en cadre par une réalisatrice, donc je confirme que c'est une femme, à suivre. Boris Bastide, Le Monde, au corps contraint, aux gentilles filles dociles à qui l'on propose de sourire sagement devant l'objectif. Salé Bliouvaïté préfère la danse, la tendresse, l'exultation, le feu, le rêve, la prise de risque, l'impolitesse, la déviance. Souhaitons-lui de garder longtemps, malgré la reconnaissance, ce goût de l'irrévérence. Renaud Baronian dans Le Parisien, la réalisatrice dont c'est le premier film, a privilégié sans systématisme des cadrages aussi somptueux qu'impossibles et des plans fixes conçus comme des tableaux. Quel talent, conclut Renaud Baronian. Frédéric Strauss déclare dans Télérama que c'est un premier film puissant. Marthe Status dans Positif, quelques lourdeurs dans l'écriture ça et là, néanmoins le coup d'essai est réussi. Alors il n'est pas réussi pour Élie Bartin dans Cahiers du cinéma. Toxic dénonce au moins qu'il ne se repaît, il porte bien son nom, on en sort indisposé. Oh. Pierre est allé voir ça.
Oui, alors j'ai dû rectifier mon commentaire juste avant l'émission, puisque c'était pas marqué sur le programme des cinéastes. Finalement, donc, c'est interdit au moins de 12 ans et c'est motivé. Ce film m'inspire les mêmes mots que la semaine dernière à propos de La Jeune Femme à l'aiguille, à savoir dur, glauque, morbide, c'est ce que j'avais dit déjà la semaine dernière. Ce film est d'ailleurs censuré, donc, au moins de 12 ans. Il est en effet fortement question de sexe, avec des mots parfois crus, mais pas seulement. Je vais vous citer un exemple, la scène où une jeune fille avale un bébé vert solitaire pour qu'elle maigrisse. Donc ça, c'est assez affreux, quand même. Film lituanien, donc, c'était pour moi la première fois, et j'ai été subjugué par la façon de filmer. Tantôt de très près, trop près peut-être, tantôt de loin, les personnages n'occupant qu'un petit coin de l'écran, et puis aussi des plans fixes, sans aucun personnage que l'on entend seulement en voix off. Alors c'est assez particulier. Ce film n'a pas vraiment d'histoire, avec un début et une fin, non, juste de jeunes adolescentes en quête d'une vie meilleure par l'intermédiaire du mannequinat. On dirait presque un documentaire. Ça veut dire que c'est très bien interprété,
eh oui,
puisqu'on y croit. Eh bien moi, donc, pour conclure, j'ai beaucoup aimé.
Toxique, c'est au cinéaste, oui. Une séance par jour. Dans Le Mélange des genres, on vous a parlé d'hommes déconstruits, mais on va écouter une chanson. Normalement, c'est pas la version de Jean-Jacques Goldman que je vous propose, c'est celle qui est dans le film. Et dans le film, c'est Vincent Delerme qui la chante. J'espère que je me suis pas trompé.
C'est pas moi qui vous ferai des plans de loup-garou, de grand méchant. S'il faut se battre pour que ça vous plaise, malaise. Vous aimerez pas dans la sueur, genre stakhanoviste du bonheur, la voix mielleuse alors heureuse, horreur. Genre australien blond, sable chaud, surf sur les vagues, sel sur la peau, grand les sourires, gros biscotto, zéro. je serai doux comme un bisou voyant dans le cou. Attentionné tiède à vos genoux, des caresses et des mots à vos goûts, dans la flemme absolue n'importe où. Mais je serai doux comme un matou velours, un cachot à l'abri levé dans notre igloo, couché debout sans dessus dessous, grand manitou de tous vos tabous, si doux. S'il vous faut un intellectuel, un bel esprit, un prix Nobel, s'il faut briller dans tout Paris, souris. Si la réussite vous excite, le style youpi cool mais dynamique, coque pour le speed, pills pour la nuit, oublie. J'expliquerai pas de l'argent long, Kamasutra en dilson, les modes emploi, notice technique, j'évite. Mais je serai doux comme un bisou voyant dans le cou, attentionné tiède à vos genoux, des caresses et des mots à vos goûts, dans la flemme absolue n'importe où. Comme un matou velours, un cachot à l'abri levé dans notre igloo, couché debout sans dessus dessous, grand manitou de tous vos tabous, si doux. Le complice avoué, le joujou de vos fantasmes et tous vos perrous, capitaine exclusif à vos coups, si doux.
Vincent Delerme, on l'entend chanter himself dans le film. C'est une chanson de Jean-Jacques Goldman et qui va d'ailleurs très très bien au personnage joué par, Benjamin Laverne. Voilà, on passe à La Réparation, film proposé par Régis Varnier au Méga CGR, au Pâté Quinconce, c'est peut-être bien au Colisée, je vais vérifier ça. Régis Varnier, c'est quand même un réalisateur scénariste qui est très connu. Il est né en 48, il a commencé comme assistant réalisateur, notamment de Bertrand Blier, je crois bien. En 86, son premier film avait marqué les esprits, La Femme de sa vie, avec Christophe Malavoie, Jean-Louis Trintignant et Elsa. C'était son premier rôle, Elsa Lunghini. Ensuite, en 88, Je suis le seigneur du château avec Jean Rochefort et Dominique Blanc. 92, le film qu'il a vraiment fait connaître du grand public et qui avait même été, je crois bien, oscarisé, Indochine, avec Catherine Deneuve, Vincent Elbaz, Jean-Yann. 95, Une femme libre avec Emmanuel Béart et Daniel Auteuil. 99, Est-Ouest avec Sandrine Bonner et Catherine Deneuve. Un documentaire pour la télévision co-réalisé avec Patrick Montel, Cœur d'athlète, en 2003. Pareil en 2004, D'or et d'argent, toujours documentaire pour la télé. 2005, Man to Man, avec Joseph Fiennes et Christine Scott-Thomas. En 2006, Pars vite et reviens tard, avec José Garcia et Marie Gillin. 2010, La ligne droite, avec Rachida Brakni. Et 2014, Le temps des aveux, avec Raphaël Personnaz et Olivier Gourmet. Donc ça faisait 10 ans que Régis Varnier n'avait pas proposé de film pour le grand écran. Pierre, parle-nous de La Réparation.
Durée 1h44, avec Julia de Nunez, Clovis Cornillac et Julien de Saint-Jean. Le synopsis, quelques heures avant l'attribution de sa troisième étoile, le célèbre chef Pascal Jankowski disparaît avec son second lors d'une partie de chasse. À 20 ans, sa fille Clara se retrouve seule aux commandes du restaurant. 2 ans plus tard, elle reçoit une mystérieuse invitation pour Taïwan. La revue de presse, très partagée là encore, Le Figaro avec Olivier Delcroix, entre thriller psychologique, conte de fées onirique et quête de soi, la réparation ausculte tout autant l'univers de la gastronomie que la manière dont un enfant tente de faire un deuil impossible ou de gérer un pesant héritage familial. Le Parisien avec Catherine Ball. On se laisse porter par ce scénario légèrement improbable avec plaisir et d'autant plus de curiosité qu'il nous plonge dans l'univers savoureux de la gastronomie. La Croix. Si l'on retrouve le talent du cinéaste à filmer la nature et les éléments, son film souffre d'un scénario maladroit et de la faiblesse d'incarnation de ses deux jeunes acteurs principaux. Et après, ça ne s'arrange pas. La Tribune du Dimanche avec Aurélien Cabrol. On aurait aimé au moins un plat relevé, mais c'est l'ensemble du menu qui se révèle bien fade. Première avec Damien Leblanc. Renoir avec son goût des grandes fresques et des invitations au voyage, le réalisateur d'Indochine propose une mise en scène qui cultive la sensualité, mais ce déploiement de moyens visuels finit par tourner légèrement à vide, tant il se met au service d'une intrigue répétitive dont la montagne de secrets accouche d'une souris. Enfin, le Journal du Dimanche, Régis Varnier mêle les genres comme ses personnages des saveurs, mais la mayonnaise ne prend pas. Si là encore il fait dans la belle image, on s'ennuie ferme face à son romanesque daté et son intrigue mal ficelée au mystère trop vite éventé et déceptif.
Alors la réparation, c'est au méga CGR et au Pâté Guincon, c'est pas du tout au Colisée. Donc le jour où il devait recevoir sa troisième étoile au Guide Michelin, Pascal Jeancot, célèbre chef cuisinier et son second, disparaissent subitement et mystérieusement, laissant Clara, la fille du premier et la petite amie secrète du second, désemparée et obligée de reprendre le flambeau seule, donc reprendre le restaurant. Deux ans plus tard, elle reçoit une invitation pour se rendre à Taïwan et là, elle fait la rencontre d'un célèbre chef local dont la cuisine lui laisse à penser qu'il était fortement influencé par son père. C'est un film avant tout sur le thème du deuil et de la transmission. Le scénario est solide, la réalisation par contre je la trouve bien molle et les acteurs un peu en dessous. Le film se présente aussi comme une histoire d'amour, mais on y ressent guère la passion affichée et c'est aussi une réflexion sur la disparition inexpliquée d'êtres chers où sont posées les questions inhérentes à ce genre de situation. Impossibilité de faire son deuil en l'absence de preuves formelles de la mort de l'individu, espoir bien entendu fou de le retrouver, recherche de la vérité, tous ces thèmes-là sont abordés dans le film et on voit donc une thématique qui est riche. Alors l'image est belle, que ce soit celle des mets cuisinés ou des paysages naturels en Bretagne ou à Taïwan, mais c'est sans doute dû à une mise en scène que je trouve, moi, mollassonne. Il y a quelque chose qui fait qu'on reste un peu sur sa faim. C'est un peu le comble dans un film sur la gastronomie. Mais bon, un film qui avait quand même de solides atouts scénaristiques, qui mêle thriller, drame familial. Les relations au début du film entre le père et la fille sont un mélange d'amour et de conflit, les deux n'ayant pas les mêmes exigences, les mêmes ambitions. C'est aussi un film sur la haute gastronomie. Il y a un côté documentaire dans la description du fonctionnement d'un grand restaurant étoilé, de la brigade en cuisine. Et puis, c'est enfin un film de voyage, puisqu'on voyage entre la Bretagne et la Thaïlande. Donc, malgré tout, un petit peu une déception venant d'un metteur en scène qui a fait quand même ses preuves depuis longtemps, comme Régis Varnier, qui par ailleurs est venu présenter le film au Mans il y a quelques semaines, qui a très bien parlé de son métier, très bien parlé de son film, et c'est très rare, ça, à souligner, dans le genre promotion d'avant-première, où généralement les propos sont très convenus. Là, il a vraiment été bien, et d'ailleurs, je suis resté jusqu'au bout, ce qui est un bon signe, parce que souvent, je pars quand les réalisateurs parlent de leur film, parce qu'ils disent oui, oh, c'est bien, c'était une bonne ambiance, etc., etc. Enfin, bon, tout ça, on s'en fout un peu. Voilà, la réparation au Pâté Quinconce et au Méga CGR. Oksana, ben Oksana par contre, eh ben c'est uniquement au cinéaste. Oksana, une séance par jour pour ce film de Charlène Favier. Charlène Favier, c'est une réalisatrice scénariste française. À son actif, plusieurs courts-métrages. Et puis en 2020, un premier long, Slalom, avec Noé Habitat, qu'on retrouve dans un tout petit rôle dans le film, là, et Jérémy Régnier. Et puis un film pour Arte, donc un téléfilm, La fille qu'on appelle. Voilà, une petite filmographie. C'est une jeune réalisatrice, Charlène Favier. Pierre, parle-nous d'Oksana.
Durée 1h43. Avec Albina Corse, Marina Koshkina et Lada Korovaï. Le synopsis, Ukraine 2008. La jeune Oksana et son groupe d'amis multiplient les actions, slogan peint sur le corps et couronne de fleurs dans les cheveux, contre un gouvernement arbitraire et corrompu. C'est la naissance d'un des mouvements les plus importants du XXIe siècle, Femen. Réfugiée politique, artiste, activiste, Oksana franchira les frontières et militera sans relâche pour les droits des femmes et la liberté, jusqu'à risquer sa propre vie. La revue de presse, Elle, avec Françoise Delbecq, un film magnifique. L'humanité, avec Éléonore Houé. La réalisatrice filme la révolte comme pulsion de vie dans un portrait touchant et mélancolique de l'une des fondatrices des Femen. Le Parisien, avec Renaud Baronian, mené à 100 à l'heure, bouillonnant, enlevé, interprété avec fougue par une jeune comédienne ukrainienne qui crève l'écran, Oksana filme coup de poing, secoue le spectateur et lui en apprend beaucoup sur le mouvement des Femen. Le Monde, avec Boris Bastide, avec sa réalisation extrêmement stylisée, son travail poussé sur les couleurs et la lumière, notamment dans les scènes d'intérieur, sa quête d'un certain onirisme, Charlotte Favier tente de rendre compte des états d'âme troubles de son héroïne jusqu'à son évaporation. Les Échos, avec Olivier Debrune, un film instructif malgré ses maladresses. Paris Match, avec Yannick Velli. Ce biopic déstructuré sur le plan narratif, séduit par la puissance d'incarnation de sa jeune actrice, Albina Corse, mais se disperse trop dans la seconde partie, comme si la réalisatrice avait hésité entre la description d'un mouvement qui va se heurter à des inévitables conflits de pouvoir et l'histoire chaotique de la jeune militante dont on ne perce jamais vraiment le mystère. Enfin positif, avec Adrien Gombeau, la réalisatrice de Slalom cherche une solution sans la trouver, s'égare dans un mini-mélo de flashback.
Oksana, proposé par les cinéastes, une séance par jour, c'est un biopic consacré à l'une des jeunes ukrainiennes, créatrice du mouvement féministe, mais pas que féministe, des Femen. Sur la forme, le film s'attache à montrer la dernière journée à Paris de la jeune femme avant son suicide, et le tout est entrecoupé de flashbacks évoquant sa jeune existence, sa courte existence, puisqu'elle est morte, je crois, à 30 ou 28, quelque chose comme ça. On la découvre donc en 2008, vivant dans la campagne ukrainienne, peignant, semble-t-il, avec talent des icônes, mais se sentant à l'étroit dans cet environnement et déjà révoltée contre le monde qui l'entoure. Alors elle part s'installer à Kiev, la capitale, où là, avec quelques autres femmes de son âge, eh bien, elle crée ce collectif des Femen qui conteste à sa manière l'ordre établi, et notamment la corruption des politiciens locaux, la prostitution systématique, et en usant d'une méthode qui va les rendre célèbres. Cette méthode, c'est manifester seins nus avec des slogans peints sur leur corps et une couronne de fleurs traditionnelle dans les cheveux. Ça, c'est la signature des Femen. Et cela, eh bien, elles vont le faire d'abord dans tous les pays d'Europe de l'Est, en Ukraine, en Biélorussie, et même dans la Russie de Poutine, ce qui, bien entendu, va leur valoir de subir une répression très très sévère, mettant leur vie en danger, d'où l'exil en France comme réfugiés politiques, où elles vont poursuivre leur combat. Le film s'attache à la personnalité d'Oksana, et à son parcours artistique, son désir de liberté, son action militante, mais aussi les dissensions qui apparaissent dans le groupe des Femen entre elles. On apprend donc pas mal de choses sur ce groupe, sans trop savoir si tout est juste, puisque au début on nous avertit que le film il est inspiré de la vie d'Oksana. Donc qu'est-ce qui relève de la vérité ou du romancé, je ne sais pas. Donc on découvre une Oksana fragile, à la personnalité complexe, pas évidente à saisir, incarnée avec talent et conviction par l'actrice ukrainienne Albina. Alors Corse, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon voilà. Pour ma part, je suis resté là aussi un petit peu sur ma fin dans la dernière partie du film, notamment sur les raisons du suicide d'Oksana, sa dernière journée ne laissant absolument pas présager qu'elle allait se suicider à la fin. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Oksana, donc ça peut être vu, et puis je pense que les féministes vont bien entendu se précipiter pour le voir, et c'est justifié d'ailleurs. Aimons-nous vivants, là les féministes ne vont pas se précipiter, mais c'est les gens du troisième âge qui vont se précipiter. Aimons-nous vivants, c'est un film de Jean-Pierre Améris, c'est proposé au Colisée, au Méga CGR et au Pathé Quinconce. Jean-Pierre Améris, c'est un réalisateur scénariste né en 61. Alors, il n'y a pas de grands films dans sa filmographie, mais des films qui sont sympas à voir. Alors, le premier en 94, Le bateau de mariage. Et puis ensuite, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a quand même une bonne vingtaine, mais on va citer quand même quelques-uns. Les émotifs anonymes avec Isabelle Carré et Benoît Poulvorde. On va citer également L'homme qui rit avec Gérard Depardieu et Marc-André Grondin. Une famille à louer avec Benoît Poulvord et Virginie Efira. Je vais mieux avec Eric Elmosnino. Illettré, ça c'était un téléfilm. Profession du père avec Benoît Poulvord et Audrey Dana. 2021, les Folies fermières avec Alban Ivanov et Sabrina Ouazani. Et 2023, tout récemment, donc Marilyn et son juge avec Michel Blanc et Louane Emera, bien entendu. Et Mon Nous Vivant, ça dure 1h30 avec Gérard Darmon, Valérie Le Mercier et Patrick Timsit. Dans le train pour Genève, Victoire, une passagère envahissante, croise Antoine Toussaint, son idole, une grande vedette de la chanson française. Entre lui, au bout du rouleau, et elle, débordante d'énergie, la rencontre sera explosive. Alors, Renaud Barognan dans Le Parisien, formidablement écrit et mis en scène par Jean-Pierre Améris et joliment interprété par ses deux comédiens principaux en grande forme, et Mon Nous Vivant procure sur un sujet a priori pas facile, de grands moments de comédie, de tendresse et beaucoup d'éclats de rire, et réussit ainsi la prouesse de tourner au film qui fait du bien. Alors évidemment, le synopsis vous dit pas qu'est-ce que c'est que ce sujet a priori pas facile, mais moi je vais vous le dire de toute façon. Frédéric Stroh dans Télérama, touchant, les deux interprètes mêlent avec tendresse, comédie à l'américaine et réflexion existentielle. Mais tout le monde n'a pas aimé, c'est Julien Barcino dans Télé 7 jours, en si bonne compagnie, on ne s'ennuie pas, même si on peut regretter un scénario largement cousu de fil blanc. Le Point, plus proche du téléfilm que du film de cinéma, et Mon Nous Vivant ne manque pas de charme, soutenu par des acteurs qui ont du métier, mais n'évite pas les bâillements à force de rester à la surface des choses et dans les bons sentiments. Olivier Delcroix, Le Figaro, pour son 15e film, Jean-Pierre Améris embarque le duo Darmon-Le Mercier dans une pochade sur la fin de vie qui patine sérieusement. Là, vous l'avez le thème, la fin de vie. Le Journal du Dimanche, Baptiste Thion, l'initiative eût été audacieuse si ce sujet très actuel ne servait pas seulement de prétexte au déroulé d'une farce ringarde, dénuée de la moindre ambition formelle et d'originalité. L'abattage de Valérie Le Mercier et la bougonnerie familière de Gérard Darmon n'y changeront rien. Et Théorie Beton, Les Incorruptibles, et Mon Nous Vivant est empreint d'une criante paresse, pour ne pas dire d'un authentique torchage, que trahit sa négligence grossière des détails et des trous de l'écriture. Le personnage n'a pas été réfléchi plus de 10 secondes. Ah, c'est quand même dur, là, mais enfin bon, et Mon Nous Vivant, Colisée, méga CGR, Pâté Quinconce, c'est sur le thème du suicide assisté en Suisse. Voilà, je le dis tout de suite. Hein. Alors ça n'apparaît absolument pas dans la bande-annonce. Hein. La bande-annonce laisse penser qu'on va avoir un droit à une comédie romantique, et c'est le cas, c'est aussi une comédie romantique légère, pour un public de seniors. On ne dit pas les vieux, on dit seniors. Ça tombe bien, j'en fais partie. Antoine Toussaint est un crooner vieillissant et célèbre. Il prend le train pour Genève, pour une raison dont on apprend très vite, je vous l'ai indiqué. Hein. Il a décidé d'en finir avec la vie à la suite d'un AVC et il redoute d'en avoir un nouveau qui le rendrait complètement comme un légume. Il a le malheur pour lui, enfin, c'est ce qu'il estime, de tomber sur une fan exubérante, Victoire, qui sera au mariage de sa fille et qui va lui casser les pieds pendant tout le trajet et même au-delà. Alors ces deux-là, ben, sont comme chien et chat, mais comme il se doit en pareil cas, ils vont finir par se rapprocher, bien entendu. Victoire, par sa pétulance et sa bonne humeur permanente, finit par l'attendrir et même lui redonner le goût de la vie et vivre même une romance réciproque avec lui. Donc voilà pourquoi ça tourne dans la comédie romantique. On est donc dans un schéma connu, un duo d'acteurs excellent, quelques dialogues bien sentis, ça suffit à trousser une comédie loin d'être exceptionnelle, qui connaît d'ailleurs de sérieuses baisses de régime. Pourtant, bah, ça commençait bien, c'est vrai, dans le genre l'emmerdeuse qui envahit la vie de son idole, ça c'était assez drôle. Le thème du suicide assisté finit par passer au second plan, pour même quasiment disparaître du film. Et justement, sur ce thème du suicide assisté et au détriment de Et Mon Nous Vivant, ben, il y a la comparaison avec le film On Ira, qui était sorti il y a quelques semaines. Mais bon, On Ira est meilleur sur ce thème-là. Bon, alors si on n'est pas trop difficile, on passe quand même un moment pas désagréable. Hein. Mais je répète, c'est surtout grâce au duo d'acteurs principaux. Les seconds rôles étant ici bien inconsistants, et ça, souvent, ça fait la différence entre une comédie ordinaire et une vraie réussite. Là, des gens comme Timsit, ils n'ont pas grand-chose à jouer. Donc c'est ce qu'on appelle un feel-good movie pour le troisième âge. C'est cousu de fil blanc, comme l'ont dit certains critiques, sans grande surprise. La réalisation est sans relief particulier. À la limite, on peut attendre que le film passe à la télévision, parce qu'il y passera forcément un jour. Voilà, et ben ça s'appelle « Et mon nous vivant », mais « Et mon nous vivant », Pierre le sait, c'est une chanson.
Ah bah bien
et
sûr.
Et ben la voilà, cette chanson « Et mon nous vivant ». Alors, c'est pas cette version-là dans le film. Dans le film, on entend une version toujours par François Valéry, mais une version plus mambo que la version originale. Et donc là, c'est la version qu'on entend sur Nostalgie. Et là, c'est sur Radio Alpha.
comme une envie de dire je t'aime. Quand on est au bout de soi-même, quand il n'y a plus aucune raison de le cacher. Comme une envie de rêver tout haut, de dire enfin les mots qu'il faut, les mots faciles qui ont le pouvoir de déranger. Et ce soir, je veux briser les ponts du silence, franchir le mur du son, le temps d'une chanson. Et mon nous vivant, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Et mon nous vivant, s'il faut danser, je veux danser maintenant. Et mon nous vivant, que le silence est une arme qui fait souffrir. Combien d'amour inavoué, combien de passions condamnées, au nom de ceux qui ne pourront jamais en mourir. Mais ce soir, on va se dépasser, faire la fête, au nom de l'amitié, simplement pour chanter. Et mon nous vivant, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent.
Ah, ça c'est sûr que les oreilles de notre programmateur saignent. Fred, Jacoup, je lui mets pas ça jusqu'à la fin parce que le pauvre, il va être au bord de l'apoplexie. Allez, aimons-nous vivants, François Valéry dans le film éponyme, aimons-nous vivants. Eh bien maintenant, on va parler de comment devenir riche grâce à sa grand-mère. Ça c'est la question que se pose mon fils. C'est un film de 2h05 de Pat Bunitipat. C'est un réalisateur thaïlandais et je crois bien que c'est son premier long-métrage. Je vais pas vous donner le nom des acteurs parce que j'aurais dû laisser ça à Pierre.
Bon. Oh, et
alors, quand M apprend que sa grand-mère est malade, il voit une opportunité de mettre fin à ses galères. En jouant les petits-fils modèles, il compte bien décrocher l'héritage, mais gagner ses faveurs est loin d'être une mince affaire. Pour toucher le pactole, il est prêt à tout. Ce qui commence comme une mission intéressée devient peu à peu l'histoire d'un petit-fils et d'une grand-mère qui apprennent à se connaître. Le film est proposé par le cinéma Les Cinéastes. Je répète, ça dure 2h05 et il y a une ou deux séances par jour. Le Figaro, Olivier Delcroix, pour son premier long-métrage, le jeune réalisateur thaïlandais capte avec humour et émotion la transmission entre une grand-mère et son petit-fils. Catherine Ball dans Le Parisien, on s'amuse de ce petit-fils a priori cynique et de cette mamie qui a de faux airs de Tati Daniel pour finalement s'émouvoir quand le duo se rapproche jusqu'à devenir inséparable. Le Point, il s'agit d'un récit initiatique à la fois tendre et lucide qui nous confronte à nos propres manquements face aux anciens et nous interroge sur le sens de la transmission tout en ouvrant une fenêtre précieuse sur la culture thaï. Cinématiseur Constantin Lacombe, reste que si le récit ne surprend jamais vraiment, le naturel désarmant de l'acteur des acteurs principaux, je ne veux pas lui donner le nom, c'est pour ça, mène le film vers quelques vrais jolis moments d'émotion. Thibaut Morand en positif, dans des décors exigus, l'éclairage met habilement en valeur les expressions des comédiens, malgré une direction d'acteurs parfois peu inspirée. Thierry Chaise pour première, un climat de force tranquille règne dans ce film qui a aussi le mérite de ne jamais occidentaliser son propos, quitte à ce que des références culturelles et cultuelles nous manquent pour tout saisir. Augustin Pietron Locatelli dans Télérama, moins sirupeux, comment devenir riche aurait été plus emballant. Son duo d'acteurs sensibles reste pour autant superbe. Julien Macheret dans Le Monde, le film pris dans un curieux mélange de sentimentalisme et de cynisme se tient sur la crête d'une mièvrerie malaisante dont on a peine à s'émouvoir du spectacle. Pierre.
Oh, c'est dur là.
Alors, à toi, défends le film.
Oui, je le défends. Bah oui, film asiatique, donc je l'ai vu. Ce film est annoncé comme étant à la fois comédie et drame. Je confirme. Il y a beaucoup d'humour dans les dialogues et beaucoup de dramatique et d'émouvant aussi dans les faits. La grand-mère est en effet atteinte de cancer proche de la phase terminale. Ne vous fiez pas au titre, l'histoire ne va peut-être pas se dérouler comme prévu finalement. Hormis quelques longueurs, peut-être trop de dialogues par moments entre la grand-mère et le petit-fils, longueurs qui nous entraînent au-delà des 2 heures de séance, ce film a beaucoup d'atouts. Très bonne qualité d'image, de belles couleurs, très bon scénario et très bonne interprétation. Ah oui, rien que ça. Rien que ça. On notera aussi au début du film l'addiction aux jeux vidéo et au téléphone portable du jeune garçon qui a même 2 portables. Cette séquence n'est sans doute pas due au hasard, mais certainement voulue par le réalisateur pour montrer que ce phénomène n'est pas seulement l'apanage de l'Occident concernant la génération Millennium. Enfin, dans l'ensemble, moi, j'ai beaucoup aimé quand même.
Et donc, ça s'appelle « Comment devenir riche grâce à sa grand-mère ?» C'est proposé avec 1 ou 2 séances par jour au cinéaste. Rapide, ben, c'est proposé au Méga CGR et au Pâté Quinconce. C'est un film français et Pierre nous en dit tout de suite davantage.
Durée 1h38 avec Paola Locatelli, Alban Lenoir et Anne-Marie Vin.
Le réalisateur, c'est Morgan S. Dalibert, oui. Réalisateur, scénariste, directeur de la photo. Jusqu'à maintenant, il a fait des films qui n'ont pas été distribués au cinéma, soit sur Netflix, soit inédits, des courts-métrages et des épisodes de séries, paraît-il fort célèbres.
Alors, le synopsis. Max a toujours... C'est une fille, hein. Oui. Max a toujours aimé aller vite. Elle ne sait pas faire autrement. Alors, quand elle découvre le karting, c'est une évidence, elle sera championne de F1. Les compétitions juniors s'enchaînent, les victoires aussi. Pourtant, à 17 ans, aucune écurie ne la retient. Sa faute principale, être une femme dans un sport d'homme. Face à ce monde qui lui tourne le dos, seul un ancien pilote de deuxième zone, totalement fantasque, croit encore en son potentiel. Un seul but, faire de Max la plus rapide. La revue de presse... L'Obs avec Xavier Le Herpeur. Si le scénario joliment ironique reste dans les clous, la mise en scène avec ses improbables angles de prise de vue donne un joli coup d'accélérateur à un genre balisé. La Tribune du Dimanche avec Marc Aurel Garot. Le récit enlevé de ce destin remue alors avec fraîcheur un genre aussi ancien qu'éreinté par ses codes virils pour donner un film joyeux et énergique sans aucun temps mort et parfaitement d'actualité. Et maintenant, ceux qui n'ont pas aimé, cinéma teaser avec Emmanuel Spadasanta. Malheureusement, Rapide est de ces films qui démarrent sur une voie off, qui va vous dire comment j'en suis arrivé là, et rembobine, gardant les stigmates de ces films de plateforme qui doivent très vite capter l'attention du spectateur, puis revenir à un flot d'informations plus structuré et plus narratif. N'est pas non plus la performance de Paola Locatelli. Ah ben, elle l'aime pas, elle. Le Monde, avec Boris Bastide. Rapide souffre d'un scénario quelque peu convenu, dont on peut facilement deviner les rebondissements à l'avance.
C'est un film girly, comme on dit, hein, sur le monde très masculin, pour ne pas dire macho, des courses de monoplace. C'est l'histoire de Max. Max, c'est une fille, hein. Fan de vitesse. Alors, vous saurez pourquoi ça s'appelle Max, mais bon, non. Fan de vitesse depuis l'enfance. Alors, sous l'œil bienveillant de sa maman qui l'élève seule, Max découvre le karting, sport mécanique pour lequel elle s'avère très douée. Et c'est donc naturellement qu'on lui propose d'intégrer une prestigieuse école de pilotage de monoplace où, là encore, elle s'illustre, mais c'est une fille. Et cela ne concrétise pas l'obtention d'un volant dans un monde, je l'ai dit, hyper macho. À la suite d'un accident de voiture de sa maman qui se retrouve handicapée, eh bien Max décide de renoncer à la conduite, l'amour dans l'âme, la conduite de voiture de course. Elle continue à conduire autrement, mais continue la voiture de course. Jusqu'à ce qu'un riche excentrique, fils à papa, passionné de course automobile, décèle tout son potentiel et lui remet le pied à l'étrier, ou plutôt la pédale d'accélérateur. Classique success story qui coche toutes les cases habituelles du genre, hein, et donc très très prévisible dans ses péripéties. Le film fait preuve d'un réel dynamisme, hein, mais l'évident manque de moyens se voit quand même à l'écran. Reste un film plein d'énergie, agréable à voir, mais sans originalité particulière, si ce n'est le choix de confier le rôle principal à une fille. Paola Locatelli, qui est paraît-il une influenceuse fort célèbre. Bon, elle s'en tire pas si mal, moi je trouve, mais c'est surtout Alban Lenoir qu'on remarque dans ce personnage fantasque et exubérant, assez loin de ses films habituels, de ses interprétations habituelles, où il joue plutôt les machos, les mecs durs à cuire. Donc c'est lui qui est le seul personnage à croire en Max. Donc c'est un divertissement agréable, mais ça sera vite oublié. C'est pas absolument indispensable d'aller voir rapide. Les deux derniers films à l'affiche cette semaine, on va en parler très vite parce qu'on n'a plus le temps. C'est Lettres siciliennes au cinéaste. C'est réalisé par deux réalisateurs italiens, Fabio Grassadonia et Antonio Piazza. C'est le troisième épisode, troisième segment d'une trilogie consacrée à la Sicile. On est au début des années 2000, après plusieurs années de prison pour collusion avec la mafia. Catello, homme politique aguerri, a tout perdu lorsque les services secrets italiens sollicitent son aide pour capturer son filleul Matteo, le dernier chef Mathieu en cavale. Catello saisit l'occasion pour se remettre en selle. Homme rusé au sans masque, illusionniste infatigable qui transforme la vérité en mensonge et le mensonge en vérité, Catello entame une correspondance improbable et singulière avec le fugitif, cherchant à profiter de son vide affectif. Un pari qui, avec l'un des criminels les plus recherchés au monde, comporte un certain risque. Les deux acteurs principaux, c'est Tony Servillo et Elio Germano, des pointures du cinéma italien. Alors, quelques revues de presse. Xavier Lerper dans l'Obs, dans le rôle de cet homme privé de sa virilité patriarcale et prêt à tout pour la reconquérir. Tony Servillo, servile et suavement fourbe, est juste magistral. Mais Elio Germano, dans le rôle de l'héritier prisonnier et solitaire, privé de sa vie depuis sa naissance, ne l'est pas moins. Aurélien Cabrol dans La Tribune Dimanche, le parallèle permanent entre le traître et le traqué se révèle particulièrement fécond. Tous deux s'enfoncent dans une abyssale tragédie, à la fois intime et publique. Boris Basti dans Le Monde, les deux réalisateurs apportent avec ce nouveau long métrage une sombre conclusion à leur trilogie consacrée à la mafia de Lille dont ils sont originaires. À voir! La rédaction du Point, la démonstration est un peu longue, hein, oui je vous l'ai dit, le film fait 2h10, mais ne manque ni de lucidité ni de saveur. Et Samuel Douer dans Télérama, à vouloir courir trop de lièvres à la fois, le cinéma de dénonciation politique cher à Francesco Rosi, la comédie à l'italienne, sans oublier le polar, Lettres siciliennes peine à atteindre ses cibles. Eh bien, nous n'avons pas vu Lettres siciliennes, j'aurais pu, et puis je me suis dégonflé au dernier moment, parce que le film fait 2h10. Comme d'ailleurs Harvest, dernier film à l'affiche cette semaine, qui fait 2h11, d'Atina Rachel Tsangaris, réalisatrice, scénariste, productrice grecque. Le film Walter Fürst, citadin devenu fermier, Charles Kent, seigneur un peu perdu, et les paysans de son domaine coulent une existence paisible aux confins d'un Éden luxuriant, lorsque se profile la menace du monde extérieur. En 7 jours hallucinés, les habitants de ce village sans nom vont assister à sa disparition. Je répète, ça dure 2h11 et c'est proposé au cinéma Les Cinéastes avec une séance par jour. Françoise Delbecq dans Elle, surréaliste, bucolique, noir, cet ovni est porté par l'irrésistible Caleb Landry Jones. Olivier Delcroix dans Le Figaro, film politique et poétique, Harvest capte une époque révolue et distille un parfum de fin du monde, adouci par la triste mélancolie d'un inéluctable exode. Xavier Lerper dans l'Obs, cette fable parabolique et esthétique, filmée avec une âpreté tellurique à la puissance d'une toile de Bruegel. Jacques Maurice dans Télérama, une fresque insolite comme un rêve fiévreux, doublée d'une belle allégorie poétique et politique. Le Point, l'histoire et les personnages ne sont malheureusement pas traités avec le même soin et l'on finit par s'ennuyer ferme. Et Thierry Chaise dans Première, ce parti pris de mise en scène ouatée, combiné à la faiblesse d'amplitude dans l'écriture des différents personnages, entraîne même cette variante autour des jeux de pouvoir à la limite de la caricature pathode. Nous n'avons pas vu Harvest et c'est proposé par les cinéastes. Alors, la semaine prochaine, on va commencer par les avant-premières. Déjà, ce soir, si vous nous écoutez en direct, au Méga CGR à 19h50 et au Pathé à 22h, l'avant-première du Drop Game, je crois que c'est plutôt un film d'horreur ou un film fantastique. Dimanche après-midi à 14h45 Omega, en présence de la réalisatrice et de certaines des actrices, le film Des jours meilleurs. Je ne sais pas s'il y aura Valérie Bonneton et Michel Larocque, mais je crois qu'il y a Sabrina Ouazani qui est annoncée. Peut-être est-il prudent de réserver sa place, je ne sais pas. Et donc la semaine prochaine sortira L'amour c'est surcoté avec Hakim Jemili et Laura Felpin. Des jours meilleurs, dont je viens de vous parler. Drop Game, Mexico 86, La chambre de Mariana, peut-être d'autres films, je ne sais pas. En tous les cas, voilà, ça c'est là, c'est sûr. Pierre recommande les deux films qu'il a vus.
Oui, j'ai aimé les deux, qui sont très différents d'ailleurs. Comment devenir riche et toxique, avec un petit avertissement pour le deuxième.
Et moi, je recommande malgré tout Le mélange des genres. Pour le reste, moins. Bon, voilà. Allez, à la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Au revoir.
Au revoir.